France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est une histoire connue sous le nom de l'affaire de la voyante ventriloque. Elle a défrayé et défraie toujours la chronique dans la station balnéaire du Cap d'Agde, jusqu'ici plus connue pour ses plages, ses animations touristiques et surtout son village naturiste, qui est à la fois une manne financière et un petit empire. Voici donc une nouvelle forme d'escroquerie, qualifiée par Libération d'arnaque mystique. Il y a une voix de l'au-delà, l'archange Michael, qui demande à ce qu'on l'appelle papa. Une médium guérisseuse, un maire angoissé et généreux, et beaucoup d'argent versé sous forme de travaux et de largesses diverses à la dite guérisseuse. Un fait divers qui pourrait prêter à sourire ou sembler simplement pathétique s'il ne s'agissait pas de fonds publics, et parfois des sommes considérables. Une histoire rocambolesque qui finit par mettre en cause tout un système, lequel ressemble terriblement à du clientélisme, sous couvert de services amicaux, d'échanges de faveurs, une sorte de corruption qui ne dit pas son nom. Il faut cependant préciser que tout cela est au conditionnel, car l'affaire est en cours d'instruction. Le maire, Gilles Détor, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et corruption, puis placé sous contrôle judiciaire et interdit de séjour dans l'Hérault. Il nie toute culpabilité, il est présumé innocent, il dit avoir été sous emprise. Tout de suite, voici le reportage et le récit de Florence de Talouette, le maire et la voyante ventriloque.
C'est dommage, parce qu'un homme de cette classe, se faire avoir, on n'y croit pas trop quand même, ça n'existe pas, ça, une voyante. Non mais n'importe qui ne se laisserait pas prendre à ce piège.
C'est tombé sur Agde, mais il y a des mêmes histoires, on entend les mêmes histoires un peu partout.
Il n'est pas idiot, il a passé ses concours pour être inspecteur de police, et après il a craqué, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Avec le temps, je pense qu'il s'est cru invincible.
L'histoire se déroule à Agde, petite ville de l'Hérault, connue pour son cap, ses plages, et désormais pour une affaire qui fait jaser toute la ville. Une histoire de voyante ventriloque, d'argent public et d'un maire sous emprise. Une histoire qui touche une famille, les Détor. Raymond, le père, maçon puis adjoint au maire à l'urbanisme, incarne le notable local, chaleureux et respecté. Mais il meurt brutalement en 1996, au moment où il envisage de se présenter à la mairie. Son fils, Gilles, ex-champion de volley et lieutenant des renseignements généraux à Lyon, est alors propulsé sur le devant de la scène. À 32 ans, en 2001, il est élu maire. Le soir de sa victoire, il s'exprime.
Depuis un an maintenant que nous sommes partis en campagne, nous avons fait un travail sur le terrain, à l'écoute des gens, proche des gens, et finalement la simplicité a payé, et surtout je dirais l'honnêteté et la vérité.
Jean-Pierre, journaliste à Midi Libre, décrit ainsi le maire.
C'est un Agatois Pirosouche qui est né à Agde. Il était connu sur Agde, mais pas plus. À l'époque, c'était Monsieur Passérieux, le maire d'Agde. Il y avait plusieurs listes qui avaient été montées, dont celle de l'actuel maire d'Agde, Monsieur Frey, Sébastien Frey, qui était censé prendre la succession de Monsieur Passérieux. Et puis c'est Gilles Détor qui a viré en tête au premier tour des élections en 2000. Et M. Détor s'est associé avec M. Frey pour remporter les élections. Le fait de prendre la mairie était quelque part un engagement de sa part de succéder au travail qu'avait fait son père, parce que son père avait été très engagé dans la vie agatoise. Et de ce décès, il se raconte que M. Détor avait toujours le blouson de son père avec lui, et quand c'était le jour des résultats des élections, le blouson, il l'avait dans le coffre et il rentrait dans les bureaux de vote, en se le mettant sous ses vêtements.
Détor s'installe durablement dans le paysage politique agatois. Pendant 20 ans, il règne sans partage, consolidant son pouvoir par un savant mélange de grands projets et de faveurs.
Alors c'était, je ne vais pas dire du clientélisme parce que ce n'est pas le terme. En fait, Monsieur Détort et la municipalité en général, hein, ce sont des gens qui rendaient beaucoup de services. Donc quand on avait un problème, on allait le voir et puis ça se réglait. Et puis ça faisait le bouche à oreille et ça faisait de l'électorat. En fait, il était tout le temps en campagne, Monsieur Détort. Il faut voir le développement qu'a eu Agde en quelques années. C'était une jolie station, c'est devenu une énorme machine à cash. Il faut voir une petite station de pêcheurs il y a 50-60 ans avec un petit camp naturiste privé et qui est devenu une ville où il y a 200 000 habitants l'été. Il vaut mieux quand on voit la taille des chantiers qui sont lancés sur Agde. Un promoteur, il a plutôt intérêt à être dans les bons papiers du maire plutôt que contre s'il veut travailler.
À partir de 2020, quelque chose bascule chez Détort. Derrière le baron local fort subsiste une blessure intime, la mort de son père dont il ne se remet pas. Alors, quand un ami lui parle d'une femme exceptionnelle qui parle avec les morts, une certaine Sophia, Gilles ne reste pas insensible.
C'est une personne qui est d'origine d'Alsace, qui avait rencontré d'énormes problèmes de famille quand elle était là-bas. Elle est venue s'installer sur Agde, et sur Agde, petit à petit, elle s'est fait une clientèle en tant que guérisseuse, voyante. Elle s'est fait un petit nom, et puis sa clientèle a grossi, et puis il y a énormément de personnes qui allaient la voir, et notamment quelques élus, à Gatois. Il y a eu des industriels, il y a eu plein de monde qui est venu la voir, finalement. Mais apparemment, ils allaient chercher du réconfort. C'était pas tant de la voyance sur l'avenir, c'était plus du réconfort, savoir si l'action qu'ils menaient était bonne, s'ils commettaient pas d'erreur en allant dans une direction ou industrielle ou politique plutôt qu'une autre. Enfin voilà, on se retrouve face à ce genre de discussion.
Au printemps 2020, Gilles Détort finit par céder. Comme d'autres responsables politiques avant lui, on pense à François Mitterrand et à son astrologue Elisabeth Tessier, il se laisse gagner par la curiosité. Dès la première séance, la médium évoque son père décédé, déroulant des détails, des souvenirs précis, jusqu'au surnom de la dernière compagne de son père. Comment peut-elle savoir tout cela ? Un doute s'installe, quelque chose lui échappe. Alors il revient, encore et encore. Chaque séance l'apaise, comme si un fil se retendait, comme si le lien avec son père reprenait vie. Bientôt, Gilles n'attend même plus les rendez-vous. Il attrape son téléphone, appelant la médium une fois par jour, puis deux, puis de plus en plus souvent. Et un soir, au téléphone, quelque chose bascule. Une voix surgit, grave, rauque, comme venue d'outre-tombe. La voix se présente, elle dit être un ange protecteur, l'ange Michael, la figure tutélaire d'Agde. Elle lui demande de l'appeler papa. Les signes, à partir de là, se multiplient. Dans le cabinet de Sophia, Gilles voit des objets se mettre à bouger, des livres se soulever brièvement, et Sophia, de désigner les objets, c'est papa. Avec le temps, les échanges avec la voix deviennent plus intimes, plus profonds encore que ceux qu'il a avec Sophia elle-même. Puis bientôt, la voix ne se contente plus de phrases sibyllines. Bientôt, elle ordonne. Sophia est une sainte. Je l'ai choisie pour te protéger. Il faut que tu l'aides. L'engrenage est lancé. Sophia a 6 enfants. L'un est handicapé. Gilles se dit qu'il a toujours voulu aider ce genre de famille. Et si en plus c'est son père qui le lui demande ?
Elle a obtenu que le maire est parvenu à faire placer 2 de ses enfants qui étaient en difficulté psychologique dans des instituts particuliers. Souvent, pour aller chercher les enfants qui étaient dans le Gard, pour aller les chercher, on envoyait le chauffeur de la mairie à peu près une centaine de kilomètres. Elle a obtenu de se faire refaire la cuisine, un permis de construire pour une véranda, des aménagements pour son mariage. La location d'un château à côté d'Agde pour célébrer ce mariage, puis sans doute d'autres choses dont on n'a pas été mis au courant, mais ce qui était le plus visible, c'était ça. Voilà. Son mari, elle aussi, avait été embauché à la mairie comme directeur des services techniques ou des espaces verts. Je ne me souviens plus exactement.
Aux yeux de Gilles Détort, il ne s'agirait pas de favoritisme. C'est une mission sacrée, confiée par l'au-delà. Dans le jardin de Sophia, le décor change à vue d'œil. Une véranda flambant neuve s'étire en plein soleil. Plus loin, un jacuzzi bulle. Une douche solaire fraîchement posée trône au milieu du gazon. Des palmiers donnent des airs de carte postale à ce pavillon de banlieue. L'aide spirituelle semble se muer en avantages bien réels, sonnants et trébuchants. Et Gilles, de se plier en quatre pour cette voix qu'il croit être son père, véritable chevalier servant, prêt à tout sacrifier, à vider ses poches, quoi qu'il en coûte. Sauf que ses poches, justement, restent pleines. Pas un sou ne sort de son portefeuille. Les cadeaux, les travaux, les voyages, les factures auraient été réglés par les caisses de la mairie ou par des entrepreneurs locaux. Un jour, Thiels Heuth, directeur régional d'EFAGE Grand Sud, la branche locale du géant français du BTP, reçoit un appel du maire. 20 ans de carrière sans histoire, et voilà que la voix de Gilles Détort, pressante, résonne à l'autre bout du fil. L'avocat de Thiels Heuth raconte.
La société EFAGE détenait les marchés de travaux contractuels d'entretien de voirie depuis plusieurs années avec la commune d'Agde, par le biais régulier d'appels d'offres. Donc mon client, il avait rencontré le maire d'Agde, Gilles Détort, dans le cadre de ses fonctions de directeur d'EFAGE Occitanie. Et puis il faisait partie aussi d'un cercle de réflexion, un cercle Mozart, qui s'apparente à la franc-maçonnerie. Les deux, ils se voyaient aussi dans le cadre. Lui, M. Zeuteux, y allait parce que c'était dans l'intérêt de la société, parce qu'il rencontrait des maires, des présidents de communautés d'agglomération. Et dans ces réunions, il y avait M. Détort. Dans ce milieu, notamment le milieu des travaux publics, des marchés qui sont accordés à des grosses entreprises, comme justement la société EFAGE, il y a des groupes de pression, il y a beaucoup de gens qui sont des influenceurs. Hein. Et donc, il rencontre Gilles Détort dans le cadre de ses relations. À plusieurs reprises, il a dit que c'était des relations uniquement professionnelles. On n'a jamais été amis, on n'a jamais rien fait ensemble. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Gilles Détort lui a vanté les mérites de cette fameuse voyante, qui était également guérisseuse. Et tout ce que m'a dit mon client, il a harcelé pour que sa société, de façon un peu détournée, fasse construire au domicile de la voyante un agrandissement de la maison, une véranda. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va partiellement accepter, il va faire un petit montage pour pas que la société EFAGE soit au courant, parce qu'il le fait un peu dans le dos de la société EFAGE. Et il va participer à hauteur de 30 000 euros de travaux qui vont être pris en charge par la société EFAGE Occitanie.
Selon l'enquête, un à un, les acteurs économiques d'Agde se trouvent enrôlés. Ils financent les caprices de la voie en échange de faveurs. Parmi ceux qui profitent du système, il y a David, ami de la voyante et du maire. Sophia souffle le nom de David au maire pour favoriser sa promotion à la barrière de péage du village naturiste.
David, c'est un proche parmi les proches. C'est quelqu'un qui a toujours suivi Gilles Détort, qui est un agatois pur aux souches aussi, qui a eu des postes vraisemblablement grâce au travail du maire d'Agde, qui a un temps gardé ce qu'on appelle nous la barrière du camp naturiste, qui est une machine à cash phénoménale où on estime, d'après les renseignements du parquet, qu'il y a à peu près 2,5 millions d'euros qui sont récoltés tous les ans. Et après, la traçabilité de l'argent est assez opaque. Le fils de ce monsieur a d'ailleurs été nommé à 22 ans responsable de la barrière de péage, sans aucun diplôme, sans aucune formation, quoi.
Et puis arrive le mariage. Le 25 août 2023, Sophia épouse Cédric Martinez. C'est lui qui a obtenu un poste quelques mois plus tôt à la régie du Centre technique municipal. Le mariage se déroule au château Sainte-Cécile, dans l'arrière-pays de Montpellier. Pelouse impeccable, allée blanche, chaises nouées de rubans dorés, face à l'autel, deux arches de roses en forme d'ailes, les ailes du fameux archange Michael. La mariée apparaît. Robe immaculée, bandeau de fleurs sur le front, elle s'avance. Et là, détail qui frappe, ce n'est pas son père qui l'accompagne. C'est Gilles, le maire. C'est lui qui lui donne le bras, qui la conduit jusqu'à l'hôtel, les yeux humides. Derrière, l'orchestre lance Oh Happy Day, les alliances quartiers brillent sous le soleil d'août. Tout est soigné, luxueux, théâtral. C'est une réussite.
Il serait prouvé que la mairie aurait largement participé aux frais du mariage. Il y a même des vidéos qui ont circulé où le maire l'accompagne à l'hôtel. Enfin, il y a des trucs assez énormes finalement. Mais bon, tant que ce n'est pas jugé, on n'en aura pas la certitude. Mais a priori, le financement est une partie de la mairie et une partie des amis qui ont été contactés pour aider la voyante à bien se marier. On parle d'un commerçant d'Agde qui avait financé les apéritifs et les fleurs en les facturant sur une autre ligne comptable. Sont invités pas mal de ceux qui ont été mis en examen finalement, des commerçants d'Agde et après beaucoup de la clientèle de Madame Martinez. Il y avait un peu plus de 200 invités, enfin c'était conséquent, c'était pas le petit mariage d'une personne qui a des soucis financiers quoi.
Quelques mois plus tard, la voix souffle à Gilles la nécessité d'offrir une nouvelle cuisine à sa protégée. L'ancienne, en formica défraîchie, n'est plus digne d'elle. La commande est validée. Plan de travail brillant, électroménager dernier cri, rangement intégré. Total, quelques milliers d'euros. La facture n'apparaît jamais au nom de Sophia. Là aussi, c'est un promoteur persuadé d'avoir un cancer et qui a consulté la médium peu avant, qui règle l'addition via ses sociétés. Coïncidence ? Dans les semaines qui suivent, le même promoteur aurait vu l'un de ses dossiers, une résidence et un projet d'hôtel à Agde, franchir les obstacles administratifs sans accroc. À l'automne 2023, Sophia veut publier son autobiographie. Titre choisi, « Des ténèbres à la lumière ». Gilles s'active aussitôt, décrochant son téléphone, sollicitant ses contacts parisiens, cherchant un éditeur. Un voyage est même prévu pour conclure l'affaire. Le 12 avril 2024, Sophia et son mari doivent monter dans un TGV première classe, direction Paris. Une chambre les attend au Novotel Bercy. Billets et hôtels sont réglés par la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée, présidée par Gilles. Sauf que le voyage n'aura jamais lieu.
Géraldine Détor, étant l'épouse de Monsieur Détor hein, et la mère de ses enfants, aurait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il était en train de faire quelque chose qui n'allait pas droit et qui a signalé les mésaventures de son mari.
Géraldine Détor explique aux policiers avoir reçu des appels anonymes émanant d'une voix masculine, rauque, tenant des propos mystiques et évoquant des éléments très personnels de sa vie privée. Elle dépose plainte. La brigade financière du SRPJ de Montpellier, en lien avec le parquet de Béziers, commence alors une enquête. Elle multiplie écoutes et perquisitions, croise les déclarations de Géraldine avec celles d'autres témoins. Rapidement, l'enquête établit un possible système d'avantages et d'interventions au cœur même de la mairie. Le 14 mars 2024, l'information tombe. Gilles Détor est placé en garde à vue. Une information judiciaire est ouverte pour corruption et prise illégale d'intérêt.
Ça a été la stupéfaction. Quand il a été interpellé, personne ne s'y attendait, personne ne voyait le maire s'empêtrer dans une affaire, surtout avec une voyante. Vous pensez bien, un élu, surtout de la ville d'Agde, qui compte quand même 200 000 habitants l'été, c'est pas une petite commune, un élu comme ça qui se fait avoir par une voyante, un ancien policier en plus.
Les policiers dressent un chiffre vertigineux. 3375 conversations téléphoniques entre Gilles et la voyante pour la seule année 2023. Presque 10 par jour. Une mécanique obsessionnelle. Les écoutes menées depuis plusieurs mois finissent de lever le voile. La voix de papa et celle de Sophia partent du même téléphone. Le 19 mars 2024, Sophia est placée en garde à vue. Pendant 48 heures, elle parle sans détour et assume tout. Surtout, elle dévoile sa méthode, elle est ventriloque.
On ne le savait pas, et c'est les enquêteurs qui l'ont découvert parce qu'elle leur a fait entendre un enregistrement. Un enregistrement qui a été diffusé auprès de Gilles Détor, qui semblait très surpris de ce qu'il entendait.
Le sol vient de se dérober sous ses pieds. Gilles murmure d'une voix blanche : « Je suis abasourdi, j'ai été trompé. » L'homme qui règne depuis 20 ans sur Agde vient de découvrir qu'il s'est fait berner par une ventriloque. Personne, avant ce jour, n'était au courant du talent de Sophia. Ni ses enfants, ni son mari. Son parcours et son profil se dessinent. Née à Strasbourg, placée très jeune à la DAS, elle s'appelle Sophie avant de devenir Sophia. CAP de sécurité incendie en poche, elle prétend avoir été brancardière, puis s'installe dans l'Hérault avec ses 6 enfants. Là, elle se réinvente, médium, magnétiseuse, coach spirituel. Sophia évoque une enfance cabossée, traversée de violence. Elle confie qu'elle a vécu des sévices graves. Son géniteur, qu'elle ne veut pas appeler papa, était impliqué dans un réseau de pédophilie. Sa mère, elle, a été placée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle entendait des voix. Tout était déjà là. Elle raconte encore avoir croisé la route du tueur en série Jacques Plumain en Alsace. Il l'emmenait au basket, dit-elle. Il avait des sabres dans son coffre. La machine judiciaire s'emballe. Le 31 mai 2024, Gilles Détor démissionne. Lui et Sophia sont incarcérés.
Des promoteurs immobiliers allaient être entendus. Et je me souviens d'un épisode où 4 ou 5 entrepreneurs immobiliers qui n'avaient pas l'habitude de prendre contact avec moi m'avaient appelé, m'avaient invité à boire le café pour savoir si je savais si c'était les prochains.
Thiel Zeut, le directeur d'Eiffage, est placé en garde à vue. Puis le patron d'un hyper-U, puis un promoteur est à son tour poursuivi. Les mises en cause s'accumulent comme un jeu de dominos. Derrière les barreaux, l'ancien maire continue de cultiver son rôle, celui d'un notable qui protège et distribue.
J'ai rencontré 2 détenus qui avaient croisé sa route. Ils m'expliquaient qu'ils étaient sans revenus et que ben, Monsieur Détor se débrouillait pour leur faire avoir des cigarettes, pour leur faire avoir un peu plus de nourriture pour la cantine, des trucs comme ça. En fait, il leur rendait service. Il leur avait donné des contacts pour quand ils sortiraient de prison. Voilà.
Fin juin, Gilles et Sophia sortent de prison. Mais leur liberté reste surveillée. Ils ont interdiction de remettre les pieds dans l'Hérault. Sophia doit résider à Strasbourg, Gilles dans le Périgord. Gilles construit sa défense, il soutient avoir été sous emprise et manipulé. Il affirme que les recrutements de proches de Sophia ont été décidés uniquement en raison de leurs compétences professionnelles. Quant à Sophia, mise en examen pour escroquerie, elle nie avoir exercé une quelconque manipulation sur le maire. Elle soutient que les avantages reçus relevaient de décisions prises librement par Gilles Détor. Juillet 2025, nouvelle garde à vue pour Gilles Détor. Cette fois, les policiers l'interrogent sur la construction d'une luxueuse villa pour sa maîtresse. En janvier 2026, il est de nouveau placé en garde à vue pour s'être rendu à Agde malgré l'interdiction. Il est aperçu aux côtés d'un responsable des infrastructures portuaires et lors de 2 manifestations publiques où se trouvait son successeur, Sébastien Frey. À ce jour, la date du procès n'est toujours pas fixée.
Je pense que beaucoup ont tourné la page, ça a beaucoup fait rire au début, beaucoup moins après. Certainement que les agatois, comme nombre d'élus de l'équipe de Détor, se sont sentis peut-être trahis par ce qui est arrivé, ou si ce n'est pas trahi, au moins ridiculisé. Les investigations continuent. Quand on en discute avec les magistrats, ils nous disent fin 2026, mais quand on parle avec les enquêteurs, ils nous confirment qu'il y a tellement de chemin à mener qu'ils se demandent s'il ne faudra pas scinder le procès en plusieurs parties. Ça va être un joli feuilleton.
Divine in a never-ending line of love.
c'était Le maire et la voyante ventriloque, un récit, un reportage signé Florence de Talouette et réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Valérie, à Jean-Claude, à Julie, l'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, et notre stagiaire, c'est Adèle Toquet. Sachez que depuis que nous avons enregistré cette émission, d'après le Midi Libre qui a largement couvert l'affaire des Torts, eh bien le fameux gîte des Torts a été mis en examen, vous le savez, pour corruption avec 18 autres personnes, dont la voyante, et il était sur le point d'annoncer sa candidature surprise aux élections municipales lorsqu'il a été renvoyé pour 4 mois en prison parce qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Et avant de vous laisser dans un tout autre domaine, un petit save the date comme on dit, ou à vos agendas en français, pour vous informer que notre nouvel opus des Pieds sur Terre sur scène, ça sera le 8 avril à 20h au studio 104 de Radio France. Des histoires vraies racontées sur scène par celles et ceux qui les ont vécues. Ça s'appelle cette fois Tout un art. Et l'idée pour cet opus-là, c'est d'interroger notre rapport à l'art et à la culture dans la veine de nos séries « Lire, c'est vivre » ou « Lire et chanter ». Une chanson peut-elle nous sauver la vie ? Pourquoi lit-on ? Peut-on tomber amoureux d'un tableau ? À quoi sert le cinéma ? Pourquoi certains n'ont-ils pas accès à l'art ? Et quelle domination s'exerce à travers la culture ? En 8 chapitres. Et autant d'histoires singulières, drôles ou touchantes, ce sera donc Les Pieds sur Terre sur scène le 8 avril à 20h. Alors je précise que la billetterie n'est pas encore ouverte, donc vous ne pouvez pas réserver pour l'instant, mais gardez bien cette date dans vos agendas et je reviens très vite avec plus de détails.